sur 103,5.
En République démocratique du Congo, selon le ministère des Affaires sociales, le nombre des personnes qui ne savent ni lire ni écrire est alarmant. Pour des raisons diverses, des jeunes gens et des personnes adultes n'ont jamais eu la chance de passer par le banc de l'école. Cela constitue un frein, un véritable frein pour le développement de notre pays. Pour résoudre ce problème, le ministère des Affaires sociales ainsi que des ONG organisent des programmes d'analphabétisation, de rattrapage scolaire et d'apprentissage professionnel. Quel est l'impact de ces initiatives afin de réduire les taux d'analphabétisme dans notre pays? Nous allons en savoir un peu plus avec Jody Kachama. Bonjour Jody.
Bonjour J.R.
Alors vous avez circulé dans quelques foyers sociaux à travers la ville de Kinshasa. Est-ce que ces foyers fonctionnent réellement?
Oui, J.R., on ne parle plus de foyers sociaux mais plutôt des centres de promotion sociale. Selon les informations reçues, les foyers sociaux s'occupaient particulièrement de l'encadrement de la femme. Aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales prend également en charge la formation des jeunes qui n'ont pas suivi une formation formelle pour diverses raisons. Il existe par exemple la formation en coupe et couture, l'esthétique, l'électricité, la mécanique et autres. Tout cela fait qu'on ne parle plus des foyers sociaux, mais des centres de promotion sociaux.
Alors, semble-t-il que vous étiez au centre de promotion sociale de Matete. Comment les choses s'organisent-elles sur place?
La formation se passe plutôt bien. Ces centres organisent des cours d'alphabet pour des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, doublé d'une formation en coupe et couture. Nous vous proposons d'écouter M. Mangala, chef des cellules d'apprentissage et alphabétisation à Matete.
Les jeunes, généralement, nous les organisons une alphabétisation scolarisante, c'est-à-dire une formation où les enfants apprennent à lire, à écrire, à calculer, et aussi tout en leur apprenant un métier qui pourra leur être utile dans l'avenir. Et pour les jeunes, ils ont 5 jours de cours de 12h à 17h. Mais les adultes apprennent pendant 2 heures seulement de 17h à 19h.
De 17h à 19h. Alors oui. Comment les choses se passent pour les personnes âgées?
Oui, tel qu'il a dit, les personnes adultes viennent pendant 5 jours également pour suivre des cours d'alphabétisation de 17h à 18h. Écoutons encore une fois M. Mangala, chef des cellules d'apprentissage et alphabétisation.
La formation que nous donnons généralement aux hommes âgés, c'est d'abord l'alphabétisation, leur donner la possibilité de lire, d'écrire et de calculer. C'est donc les trois objectifs que nous poursuivons d'abord dans un premier temps. La formation normale dure 3 mois, mais il arrive des fois où un sujet peut présenter certaines difficultés, où il peut dépasser 3 mois pour faire 4 ou bien 5 mois, et même pour les unes, même 6 mois ou 8 mois. D'abord, la compréhension est d'abord retardée, et de deux, apprendre à une personne qui n'a pas été sur les bancs de l'école depuis 30 ans, 40 ans de vie et qui n'a pas été sur les bancs de l'école pose un énorme problème.
Et combien ils payent pour la formation?
Bon, en tout cas, celle-là, pour les adultes, c'est 1 000 francs d'inscription et les bénévoles, c'est 3 000 le mois.
3 000 le mois. Avez-vous recueilli les avis des apprenants sur la formation?
Oui, vous savez, pour les adultes, comme ils viennent chaque fois le soir, on n'a pas pu parler avec eux, mais il était difficile de les rencontrer. Nous avons cependant donné la parole à une jeune fille de 18 ans, elle s'appelle Hélène, on l'a trouvée sur place, on peut l'écouter.
Les lotos et boué tout le temps à bande des semaines, ma foutre à ma professeur, et moi, je vais faire des cours exactes.
Ma cours à mon niveau, vous avez
besoin? Je vais alphabet, français, moi, je vais faire des cours de soutien, maintenant, je donc, ma cours, je vais avoir. Bon, et ça, selon le niveau, tu as qui n'est en haut, il y a un foyer, il y a tout le temps à quoi tu es, pour la dinga, pour comme, à tout le temps.
Quoi, pour nous, tu as dit quoi, pour nous, tu as dit?
Voilà. Est-ce que tous ces centres de promotion sociale fonctionnent normalement dans toutes les communes de la capitale? Mais je dis, disons pour ceux-là qui ne comprennent pas Lingala, on peut quand même le traduire pour eux.
Oui, la jeune fille a dit que ses parents n'avaient pas le moyen pour lui payer ses études. C'est ainsi qu'elle a chômé pendant plusieurs années. Mais maintenant, elle est allée au centre de rattrapage où elle apprend l'alphabétisation et les cours de apprend également la coupe et couture.
Est-ce que tous les centres de promotion sociale fonctionnent normalement dans toutes les communes?
Bon, il faut retenir que ces centres sont butés à plusieurs difficultés. Pour en savoir plus, nous vous proposons d'écouter Mme Germaine Penelombe, chef des divisions urbaines des affaires sociales pour la ville de Kinshasa.
Nous étions présents dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Bien sûr, le ministère, c'est un vieux ministère qui a connu beaucoup de soubresauts dans son existence. Il y a eu des moments où il a été associé à d'autres ministères, à la jeunesse par exemple, à la santé, à la condition féminine. Et quand il passait ces étapes, chaque fois qu'il revenait, il redevenait autonome, il laissait des plumes quelque part, c'est-à-dire ses infrastructures restaient pour les autres amis avec qui il a été associé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus toutes nos infrastructures, ou alors, si ce n'est pas cela, ils ont été tout simplement spoliés, mais nous sommes du moins présents dans plus ou moins plus de 18 communes de la capitale où nous fonctionnons normalement. Dans les autres communes où nous ne sommes pas présents, les services, disons les activités fonctionnent dans une commune située aux alentours. Par exemple, je peux donner l'exemple de la commune de Kinshasa. Nous n'avons plus d'infrastructure, mais nous fonctionnons au centre de Lingwala, c'est-à-dire le matin Lingwala et l'après-midi c'est Kinshasa. Ce qui fait que nos centres, la plupart de nos centres fonctionnent à double vacation.
Et comment les choses se passent-elles dans les communes périphériques de Kinshasa?
Bon, vous savez, hier, le ministère des Affaires sociales travaille actuellement en partenariat avec des organisations non gouvernementales de développement qui œuvrent dans le secteur de la formation informelle. Alors, c'est ainsi qu'il existe des ONG qui s'occupent également de la formation, qui donnent des formations de rattrapage. Alors, à ce sujet, nous allons vous proposer d'écouter M. Lumande Mambo, qui est président des regroupements des ONG d'alphabétisation, de rattrapage scolaire et apprentissage professionnel des communes de Lancélé et Maloko.
Sur 1000 cas recensés, 850 sont des filles qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, c'est comme ça que nous avons pris l'engagement auprès de... Enfin, nous avons créé des associations pour essayer de les aider. Premièrement, oui. Ces filles n'étudient pas parce que, vous comprenez, ce sont des filles délaissées, des filles mères, mm-hmm. hein, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas d'argent pour étudier. Et dont les parents les abandonnent, et ce sont ces filles qui nourrissent encore leurs parents en faisant la débauche, vous comprenez, entre guillemets. Nous leur donnons l'alphabétisation, nous donnons la coupe et couture, et nous donnons l'élevage domestique hein, des poules, nous donnons le maraîchage. Alors, quand on a élevé les poules ou on a fait le maraîchage, mmh. la récolte est divisé par trois. Un tiers va avec la fille et mère pour nourrir ses enfants. Un tiers, nous donnons aux amis qui nous aident à encadrer les mamans pour l'alphabétisation. Mm-hmm. Bon, un tiers, c'est juste pour acheter la craie ou des ciseaux, mettre ruban ou des aiguilles pour les machines.
Voilà, c'est un peu difficile. Oui. Ben alors, je dis, qu'en est-il alors du taux d'analphabétisme dans notre pays? Parce qu'il y a des formations qui sont organisées ci et là. Oui. Nous supposons que le taux quand même, cela a un impact sur le taux d'analphabétisme.
Oui, d'après Madame la chef des divisions des affaires sociales, elle dit que pour l'instant, il est difficile d'avoir des informations fiables à ces sujets. C'est ainsi que le ministère a initié, n'est-ce pas, un partenariat avec les ONG pour voir comment ils peuvent conjuguer les efforts pour travailler ensemble. Cependant, cette formation, il faut retenir que ça produit quand même des fruits. Écoutons M. Grégoire Niemboué, chef des cellules du centre de promotion sociale des Lingwala.
L'école a existé il y a plusieurs années. Moi, je suis dans cette école, ça fait 14 ans. Il y a beaucoup, ce qui fait 14 ans, ça fait plus de 14 promotions qui sont parties. Parmi eux, il y a des ingénieurs qui sont partis d'ici, récupérés, et par après, ils ont eu le coup, ils sont allés plus loin avec les universités. Et entre autres, il y a des cadres universitaires, des ingénieurs qui sont engagés dans plusieurs secteurs de notre pays et qui font le travail que nous connaissons bien.
Voilà, merci Jeudi. Nous allons donner la parole à nos invités pour ce sujet. Nous avons Gabi Kayembe Milolo, directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. Également Jean Bosco Lalo, responsable des ONG qui encadrent les analphabètes en Ituri. Donc on va les recevoir dans quelques instants.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Gabi Kayembe Milolo, nous rappelons que vous êtes directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous avez suivi le point que venait de nous faire Jeudi Kachama autour de ce problème de la lutte contre l'analphabétisme en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, nous aimerions un peu savoir quelle est la situation actuelle de nos centres de promotion sociale.
Je vous remercie d'abord de cette occasion que vous m'avez donnée pour parler de l'alphabétisation de notre pays. Actuellement, nos centres de promotion sociale sont répartis au niveau de la République dans pratiquement toutes les provinces. Ces centres connaissent de difficultés pour leur fonctionnement, difficultés dues à beaucoup de causes sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir si vous le permettez. Mais disons qu'en général, le centre fonctionne tant bien que mal.
Le centre fonctionne tant bien que mal. Aujourd'hui, on est passé de foyers sociaux au centre des promotions sociales. Qu'est-ce qui explique cette mutation?
La mutation s'explique par le fait qu'au début, les foyers sociaux ont été des lieux d'encadrement de jeunes filles, de jeunes femmes, pour leur permettre à savoir se tirer d'affaires dans leurs familles respectives. Mais on est parti de cette considération vers la promotion de la population en général, qui dit promotion, dit formation. Ainsi donc, ces lieux qui étaient destinés à prendre un métier, limité aux besoins familiales, est devenu un lieu de formation générale de l'homme pour son épanouissement, pour son insertion socio-professionnelle.
Donc l'objectif, c'est réinsérer, disons, une personne vulnérable particulièrement, ou, ben, disons, parce que les filles mères sont aujourd'hui classées parmi les personnes vulnérables.
Oui, la vulnérabilité dont vous parlez ici, il faut la considérer dans le sens intellectuel. Il s'agit de donner aux gens la formation intellectuelle dont ils ont besoin pour pouvoir se tirer d'affaires dans la vie. Apprendre, avoir les connaissances, les compétences techniques en lecture, en écriture, en calcul, et ensuite apprendre un métier.
Mais l'image que donnent aujourd'hui ces centres de promotion sociale nous fait croire que le ministère des tutelles n'appuie pas ces centres. Donc c'est comme s'ils sont abandonnés à leur triste sort. Parce que vous avez des bâtiments, des locaux même, ou des infrastructures qui donnent un visage ou une figure de parents pauvres, donc dans un état de délabrement. Ben alors, le ministère fait quoi exactement dans ces initiatives?
La situation que vous venez de décrire n'est pas seulement propre au centre de promotion sociale. C'est une situation générale pour l'ensemble de nos instituts de formation primaire et secondaire de la République. Cela est dû à des causes que vous connaissez. Nous avons la guerre, nous avons le problème d'insuffisance des moyens que l'État met à disposition de ces institutions. C'est ça qui fait que nos centres de promotion sociale traversent des conditions matérielles déplorables. Mais les efforts qui sont pour le moment consentis vont permettre à ces centres de reprendre leur physionomie d'antan. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau du ministère du Plan et Finances, nous espérons que pour l'année prochaine, 2008, il y aura réhabilitation et équipement de quelques-uns de ces centres à travers la République. Il y aura aussi, grâce à l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine et tant d'autres, nous aurons le matériel pour pouvoir permettre à ces centres de mieux travailler.
Et alors, quels sont vos rapports avec vos partenaires? Je vais parler de certaines ONG qui travaillent dans le secteur de développement et notamment de l'éducation formelle. Comment sont vos rapports?
Nos rapports sont bons, mais nous tenons à ce qu'ils deviennent excellents. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Sur le plan financier, le gouvernement n'apporte rien comme appui à ces organisations qui, en fait, travaillent jusqu'à maintenant, disons, dans le bénévolat le plus total. Mais les efforts consistent à essayer d'identifier ce centre-là, ces ONG, pour savoir celles qui remplissent les conditions exigées pour l'agrément, pour éventuellement prétendre avoir l'appui du gouvernement. Il y a quand même des conditions.
On va vérifier parce que nous sommes suivis dans tout le pays. Oui. Nous allons nous rendre à Ituri, oui, où il y a Jean Bosco Lalo, responsable des ONG, et qui encadre les analphabètes à Ituri. Monsieur Jean Bosco, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Alors, est-ce que votre ONG est vraiment, disons, agréée au niveau du ministère des Affaires sociales?
Oui, en fait, monsieur le journaliste, nous savons le processus pour faire agréer une ONG au niveau des ministères de tutelle. Et nous sommes encore au niveau des bases ici, donc nous sommes en cours d'obtenir ces documents.
Est-ce que vous recevez l'appui du ministère? Pas encore?
En tout cas, ça sera utopique parce que même ceux qui ont cet agrément-là ne bénéficient pas de l'appui du gouvernement.
Alors comment vous procédez concrètement sur le terrain et comment vous encadrez? Parce que participer à cette initiative de développement, ça demande un peu de moyens. Est-ce que vous en avez suffisamment?
Oui, en fait, nous n'en avons pas suffisamment, mais néanmoins, nous avons la volonté pour faire ce que nous voulons faire. Et ce sont les bénéficiaires qui considèrent la nécessité ou les besoins et contribuent volontairement pour que nous puissions assurer leur formation.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux d'analphabétisme en Ituri?
En tout cas, d'abord sur le plan national, c'est 70% et que ce taux augmente lorsqu'on va à l'intérieur. Donc il y a des lieux où on trouve carrément 100%, il y a des lieux où on trouve 95% et 90%. Et ça nous inquiète à tel point que nous sommes obligés et même condamnés de nous y investir. Et nous sollicitons aussi d'autres gens qui ont des niveaux, qui ont étudié peu, qui sachent que c'est un problème réel que nous devons combattre.
Et qu'est-ce qui serait à la base de cette hausse du taux?
En tout cas, les réseaux peuvent varier d'un lieu à l'autre, mais néanmoins, nous connaissons, il y a des cultures où les gens sont dans des lieux tellement éloignés qu'il n'y a aucune école qui est dans leurs entourages. Et par conséquent, les enfants ne savent même pas si les écoles existent. Et si grandissant, ils ne s'occupent pas de leur vie quotidienne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la vie, c'est ça.
Oui, semble-t-il qu'à Ubuntu, je ne sais pas si je me trompe pas, à Ubuntu, les filles ne s'intéressent même pas à l'école.
Oui, cela peut être possible parce que je vous ai dit justement qu'il y a des lieux où les écoles n'existent pas, n'ont jamais existé. Et aussi, il y a des cultures où les enfants servent de main d'œuvre aux familles. Donc, par exemple, une fille doit commencer par garder ses cadets et ses cadettes, et ainsi de suite, et les travaux des chats, et puis elle grandit. Après ça, elle est au mariage.
Alors, quelle formation donnez-vous à ces personnes dans votre centre, si vous pouvez nous faire une idée?
En tout cas, oui, dans notre centre, nous recrutons donc toutes les personnes, même celles qui n'ont jamais été à l'école, et on les regroupe selon les degrés élémentaires, moyens, tenant d'abord de l'école primaire. Et cela leur permet d'avoir une vision au moins sur d'abord l'éducation des bases de l'école primaire. Et ensuite, nous allons les orienter vers les métiers.
Voilà, il faut parler au plus pressé, hein, donc c'est-à-dire chercher l'agrément auprès du ministère des Affaires sociales afin que vous puissiez bénéficier de certaines assistances de leur part, parce que bientôt, comme nous l'avons suivi, la Banque mondiale et d'autres partenaires qui pourront entrer dans le jeu, ça pourrait peut-être vous être profitable. Voilà, donc merci Jean Bosco Lalo de nous avoir apporté ces informations. Nous retournons à M. Gabi Kayembe Milolo, directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. M. Gabi, au regard, est-ce que vous avez une idée générale de la situation des centres de promotion sociale éparpillés dans le pays?
Je vous remercie. Je veux d'abord apporter un correctif. Quand vous parlez de centres de promotion sociale, eh bien, ça c'est le terme qui est propre aux institutions publiques de l'État, gérées par le ministère des Affaires sociales directement. Tous les centres qui font les activités d'alphabétisation ne sont pas des centres de promotion sociale. Nous les appelons carrément les centres d'alphabétisation ou les centres d'apprentissage professionnel. La difficulté que nous avons de gérer ces centres appartenant aux partenaires ONG, c'est le fait qu'une ONG va en même temps organiser les activités d'alphabétisation et les activités de post-alphabétisation. Vous comprenez que c'est difficile. Difficile pourquoi? D'abord, ces ONG n'ont pas de moyens suffisants pour faire ce travail. Elles n'ont pas du personnel spécialisé, formé à la matière, vous comprenez ce que cela fait.
Le ministère a du pain sur la planche.
Le ministère a vraiment du boulot. Nous avons du personnel, mais il faudrait que nous sachions qui fait quoi pour pouvoir apporter notre secours. Il est vrai, le gouvernement ne donne pas de fonds, de moyens financiers à ces ONG. Mais néanmoins, nous sommes disposés à leur apporter notre contribution technique.
Et quelle est votre politique pour lutter contre l'analphabétisme en République démocratique du Congo, qui au jour d'aujourd'hui a un taux élevé?
Les moyens de lutte sont nombreux. D'abord, il faut avoir le personnel pour pouvoir faire le travail. Donc,
le personnel qualifié.
Les alphabétiseurs. Formés à nombre suffisant. On n'en a pas. Et nous sommes décidés à les former. Et je vous assure que...
Nous revenons à vous, à Gabi Kayembe Milolo. Nous rappelons que vous êtes directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. On parlait de moyens à votre disposition pour arriver à lutter contre l'analphabétisme en République démocratique du Congo.
Oui, je parlais d'abord...
Vous avez parlé d'abord de personnel.
De personnel que nous devons former à nombre suffisant. Je crois que le gouvernement ne serait pas seul dans cette tâche. Nous aurons l'appui de la Banque africaine de développement qui va nous aider à former à travers le pays 2000 alphabétiseurs à travers le pays.
C'est encore une promesse?
C'est déjà programmé. On va démarrer les activités, s'il peut être dit, au mois d'octobre. Ensuite... après les ressources humaines, il y a le problème des ressources matérielles, matériel didactique qu'on doit avoir dans les centres. À ce sujet, nous avons eu l'apport de l'UNESCO qui nous a aidé à imprimer le programme d'alphabétisation harmonisée en langue nationale pour toute la République. Je crois que d'ici le 15 octobre, ces programmes seront disponibles et pourront être distribués à travers la République. Dans les centres qui font l'alphabétisation. Concernant le moyen financier, parce qu'il faut qu'on en parle carrément, nous avons prévu dans le budget 2008 la possibilité, si les finances nous accordaient ces moyens, d'aider certains centres qui sont viables et fiables à leur permettre d'avoir le moyen d'acheter la craie, d'acheter du papier, en attendant que le gouvernement prenne en charge le salaire de leur personnel effectif. Et cette opération ne pourrait se faire qu'après l'état des lieux que nous allons faire au mois d'octobre, avec l'appui de la Banque mondiale, puisque tout est déjà programmé et budgétisé. Et nous aurons à faire une descente à travers la République pour identifier, et tous les centres qui font l'alphabétisation, identifier le personnel qui fait son travail, identifier l'état de bâtiments utilisés à travers la République. C'est à l'issue de ce constat que nous saurons nous déterminer sur le taux dans l'alphabétisme, les besoins ressentis et arrêter une stratégie conséquente pour permettre une vraie promotion de l'alphabétisme dans notre pays.
Oui, Gabi Kayembe Milolo, nous rappelons que vous êtes directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. C'est un service que bon nombre peut-être découvre pour la première fois à travers Radio Capi. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de ce service?
Le service n'est pas du tout récent, c'est un vieux service. Mais suite aux besoins ressentis sur le terrain, le gouvernement n'a fait que redynamiser ce service qui était en fait au début une direction d'alphabétisation et éducation des adultes. Et cette direction est maintenant élevée au rang d'une direction générale de l'éducation non formelle. Dans son sein, cette direction générale va s'occuper des activités d'alphabétisation, des activités de rattrapage scolaire, des activités d'apprentissage professionnel et des activités de formation des adultes. Pourquoi ces quatre activités? Eh bien, ces quatre activités font partie de ce que nous appelons l'éducation non formelle. C'est-à-dire qu'au niveau de la récupération, nous avons deux niveaux. Le rattrapage scolaire est une activité d'alphabétisation qui a pour but de récupérer tous les enfants en âge de scolarité primaire, ce que nous appelons l'éducation de base, les enfants qui ont moins de 12 ans. Ces enfants sont récupérés pendant 3 ans, à l'issue desquels ils peuvent soit présenter le test qu'on appelle TENAFEP, test national de fin d'études primaires, organisé par l'enseignement primaire secondaire, nos enfants qui auront participé à la récupération chez nous présenteront ce test-là, et ceux qui obtiennent le certificat d'études primaires sont automatiquement admis à l'école secondaire, en première année secondaire. Donc, ils quittent le système non formel pour aller vers le système formel. Mmh. C'est la première récupération. La deuxième récupération se fait au niveau des affaires sociales, c'est-à-dire que les jeunes qui ont déjà dépassé l'âge de la scolarité primaire, ils continuent chez nous après 3 ans d'alphabétisation, ils obtiennent leur certificat d'alphabétisation. Et ces jeunes sont orientés vers l'apprentissage professionnel dans les diverses options qui sont ouvertes dans nos centres. Ça peut être la coupe et couture, ça peut être la maçonnerie, ça peut être la cordonnerie, ça peut être hôtesse et accueil, toutes les options possibles selon les besoins ressentis par le milieu.
Oui, quand vous dites que ces jeunes seront récupérés, ça veut dire que ça n'a pas encore commencé à fonctionner concrètement?
Non, nous fonctionnons. Quand je dis ça, c'est une activité continue. Mmh. Ce n'est pas...
Et déjà, vous avez ciblé des enfants?
Oui, nous avons...
Combien à peu près?
À travers la République ou à travers une province?
Parce bon, qu'en fait, prenons la ville de Kinshasa.
La ville de Kinshasa, nous avons les données dernièrement. L'UNESCO nous a aidés. Mmh. À avoir ce que nous appelons le SIGE. Donc le SIGE, c'est le système d'information en matière de gestion d'éducation. Ça nous permet d'avoir des annuaires. Donc l'annuaire, c'est un ensemble de données là qui concernent les infrastructures, les enseignants, les apprenants, les matériels et autres difficultés rencontrées. Donc en l'an 2006, nous avons pu découvrir que la ville de Kinshasa avait au total 153 centres d'alphabétisation. Et
Qui sont viables?
Viables, oui.
153 centres viables.
153 centres viables dans la ville de Kinshasa, mm-hmm. pour l'an 2006. Oui. Pour cette année, nous venons de rentrer du recensement que nous avons pu effectuer à travers la République grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. Les données provisoires nous montrent que la ville de Kinshasa a plus de 180 centres d'alphabétisation. Donc il y a une progression qui apparaît. Et nous pouvons dire que tout le monde s'y met, timidement, mais quand même le travail se fait.
Oui, mais jusque-là, vous n'avez pas dit le nombre d'enfants que vous avez.
Le nombre d'enfants est très variable. Je vous ai dit que l'année passée, nous avons pour les 153 centres recensés, nous avons plus de 23 000 apprenants. Cette année, nous n'avons pas encore terminé à traiter, analyser les fiches qui sont rentrées. Le travail est en train d'être fait au niveau de la saisie des données.
Oui, mais nous retenons néanmoins le chiffre.
Le chiffre est
plus de 23 000 pour l'année 2006. Nous savons qu'actuellement, les parents ont beaucoup de problèmes pour payer les frais scolaires de leurs enfants. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école. D'autres n'ont jamais été à l'école du fait qu'ils ont été abandonnés par leurs parents. Là, nous voyons directement les enfants en situation difficile, les enfants de la rue, que bon nombre appellent chégués. Oui. Est-ce que ces enfants-là sont également repris par vos services?
Les enfants de la rue sont repris par nos services. Mais il y a une difficulté. Lorsque nous parlons des enfants de la rue, c'est un phénomène complexe. Un enfant, pour qu'il reste à l'école, il faut qu'il ait d'abord des préalables. C'est-à-dire qu'il sache où manger, où dormir, quoi vêtir. Mais il arrive que ces enfants de la rue, là, n'ayant pas une prise en charge pour leur séjour, eh bien, ils se font inscrire dans un centre. Quelques jours après, ils abandonnent. Mm. C'est ainsi que ce phénomène nécessite les efforts, la concertation de plusieurs ministères pour pouvoir trouver leur solution.
Alors finalement, durable. Quelle est la catégorie des enfants qui restent dans ce centre, qui sont encadrés par vos services?
Les enfants qui restent dans le centre sont ceux qui ont des parents bien identifiés ici, ou des personnes qui les prennent en charge. Et pour pouvoir leur donner les préalables dont je parlais là, la nourriture, les habits, les soins. Et les enfants de la rue constituent vraiment un problème qui nous préoccupe. Je crois qu'au niveau du ministère, le ministre s'est décidé d'étudier les voies et moyens pour pouvoir d'abord assurer la prise en charge de ces enfants-là avant de parler de leur récupération intellectuelle.
Oui, mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que concrètement, sur le terrain, on ne ressent pas finalement le fruit de vos efforts. Vous avez parlé de 23 000 enfants qui ont été encadrés à travers 153 centres dans la ville de Kinshasa, mais curieusement, on ne le constate pas. On a l'impression que ces centres ne sont plus viables, que ces centres devraient carrément fermer.
Madame, je crois qu'il y a lieu de différencier les choses.
Oui.
Vous parlez de viabilité. Je ne sais pas de quelle viabilité vous parlez, parce que pour moi, je me vois devant deux situations. Je vous ai dit que éduquer les enfants, former les enfants, est une activité propre au ministère des Affaires sociales. Mais je vous ai dit que pour que ces enfants restent, suivent la formation, il y a des préalables qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas le ministère des Affaires sociales seul qui doit trouver la solution à ce problème. C'est comme ça que je dis, il faudrait que tous les ministères impliqués, les ONG, les parents, les sociétés civiles, qu'ils nous mettions tous ensemble pour savoir comment encadrer ces enfants afin que la formation que nous leur donnons ait des effets comptés. Sinon, c'est une opération voie à l'échec.
Mm-hmm. Et jusque-là, si on doit qualifier l'opération que vous avez eu à mener, oui. C'était une réussite?
C'est une réussite parce que je vous ai dit que nous avons autant d'enfants, mais il faudrait voir à la fin de l'année, les résultats obtenus prouvent qu'il y a de l'espoir et nous devons davantage nous resserrer le coude. Si nous tenons vraiment
pour l'année 2006, c'était bon?
C'était bon.
Il y a eu combien en pourcentage, on peut qualifier cela?
En pourcentage des enfants, attention, quand vous me demandez de vous donner les résultats, il faut les dissocier, puisque nous parlons en professionnel.
Allez-y.
Si nous tenons compte des résultats obtenus selon le cours, la formation donnée, nous avons à peu près 75% de réussite au cours. C'est une réussite. La deuxième réussite, si nous tenons compte du nombre d'enfants inscrits au début et qui sont là avec nous jusqu'à la fin de l'année, qui n'ont pas abandonné le cours, nous voyons que nous avons à peu près 105% d'enfants qui sont partis avec nous jusqu'à la fin. Donc, quand je dis que les résultats sont encourageants, c'est compte tenu de ces deux facteurs. Mmh. Nombre d'enfants inscrits au début de l'année et qui sont arrivés avec nous à la fin de l'année, et le nombre d'enfants qui ont réussi au cours donné pendant l'année.
Alors, juste pour terminer, la dernière question, les centres qui sont je dirais opérationnels, qui fonctionnent bien, où les enfants peuvent suivre une bonne formation, sont où exactement dans la ville de Kinshasa?
Dans chaque commune, nous avons les centres de promotion sociale. J'invite les parents et tous ceux qui n'ont pas pu trouver de place pour caser leurs enfants à aller dans les centres de promotion sociale de chaque commune, c'est connu. Je n'ai pas fait la cartographie de la ville ici. En fait,
celui de la commune de Lingwala n'existe plus.
La commune
de Moushi.
Non, c'est dans la commune de Lingwala que ça fonctionne. Vous parlez plutôt de Kinshasa.
Commune de Kinshasa, voilà.
Voilà, oui, la commune de Kinshasa a des problèmes parce que notre bâtiment est pris par la police. C'est notre problème que vous soulevez. Vous savez que nous, Affaires sociales, nous avons beaucoup de problèmes. Depuis notre suppression, vers les années 74.
Beaucoup de terrains spoliés.
Alors, beaucoup de terrains, beaucoup de bâtiments ont été pris. Bon, beaucoup de
biens. Donc finalement, il n'y a pas de centre dans toutes les communes de la ville de Kinshasa.
Si. Le cas de Kinshasa est une exception. Je ne dois pas généraliser les choses. Mm.
Voilà, nous disons merci à Gabi Kayembe Milolo. Et nous rappelons que vous êtes directeur général de l'éducation non formelle au ministère des Affaires sociales. Nous allons faire le suivi pour voir comment vos partenaires vont vous aider à pouvoir, vous lancer dans cette démarche et enfin de réussir. Nous serons là pour vous accompagner. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Je vous remercie beaucoup de cette occasion que vous m'avez donnée et je voudrais dire un mot. Je solliciterai votre Clémence, pour que nous organisions de temps en temps des émissions autour de cette histoire d'alphabétisation et d'éducation non formelle, puisque votre radio semble être une radio mieux suivie, mieux écoutée à travers la République. Et dans les efforts que nous avons à faire, dans les recommandations de l'UNESCO, vous êtes notre partenaire et nous devons compter sur vous pour nous permettre d'atteindre les milieux les plus lointains. Je suis heureux de suivre ici, en direct, la situation qui peut voir à l'est du pays. Mais, cher ami, vous devez savoir que nous souffrons beaucoup. Nous sommes allés et on n'a pas pu atteindre certains coins de la République à l'Est
à cause de l'insécurité. Nous y reviendrons, M. Gabi. Donc, je crois que nos studios sont ouverts et nous traitons tous les sujets. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous vous avons associé à cette réflexion. Donc, on les fera autant, donc chaque fois qu'on aura besoin de vous. Merci une fois encore d'être de nôtre et à la prochaine.
Merci beaucoup.